Bon, en guise d'introduction, rapidement, on pourrait essayer de se demander de quoi je vais parler, oui, parce que du coup, je n'ai pas eu le temps de lire mon titre. Donc, l'idée, ça va être de, en 30 minutes, essayer de se demander la méthode, en quoi la méthode de pratique du dialogue philosophique dont je vais vous parler pourrait se présenter comme un outil de prévention du dogmatisme, du fanatisme et de la radicalisation. Donc, bon, c'est une très bonne introduction qu'on a eue comme exemple d'attitude radicale. Donc en guise d'introduction, rapidement, de quoi on parle quand on parle de dogmatisme. Donc moi je vais parler du dogmatisme comme une attitude fondée sur des certitudes inébranlables qui consiste à rejeter le doute et la critique. Donc il s'agit d'une attitude intellectuelle qu'on caractérise par une absence d'autocritique et l'utilisation du jugement catégorique et définitif. Quand on parle de fanatisme, on parle d'un attachement passionné et zélé qui peut conduire à l'intolérance, voire à la violence. Donc avec le fanatisme, on est dans un état affectif dominé par les émotions et on est à l'abandon de la raison. Rapidement, quand on parle de radicalisation, on parle d'un processus de rigidification croissante qui découle d'une interprétation, donc on l'a vu, idéologique et littérale des principes d'un système qui peut être politique mais aussi économique ou religieux. Donc, il s'agit d'un processus dynamique qui est gouverné par l'affect et qui aboutit à une idéologie radicale qui conjugue en fait le dogmatisme dont on vient de parler et le fanatisme. Donc, juste pour ma présentation, je vais parler de l'ensemble des dérives sectaires, donc des intégrismes et des intégrismes religieux, mais aussi des mouvements New Age, des médecines parallèles, théories pseudo-scientifiques et complotistes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et parce que je vais essayer vraiment de formaliser en fait les mécanismes et les processus qui sont mis en œuvre. Donc peut-être que je vais parfois grossir des traits, je m'en excuse d'avance et on pourra en parler bien sûr après la présentation. Donc l'idée c'est vraiment de considérer l'ensemble des dérives sectaires comme des mouvements tributaires de ces postures à la fois dogmatiques, fanatiques et radicalisées. Quand on parle de pratique du dialogue philosophique, on parle d'une approche pédagogique fondée sur la philosophie et qui vise la formation du jugement et le développement du vivre ensemble. Donc c'est une pratique qui est née dans le contexte d'une philosophie avec et pour les enfants, donc je vais vous en parler, mais elle est pratiquée maintenant avec des publics de tous les âges, mais là le but c'est vraiment de parler aussi de philosophie pour enfants en tant que modèle éducatif. Donc l'objectif de la présentation, ça va être de vous proposer une approche éducative de la prévention des dérives sectaires et notamment la pertinence de l'utilisation de cette pratique philosophique. Donc dans un premier temps, je vais vous essayer de proposer une identification un peu formelle des mécanismes de la radicalisation. Ensuite, je vous proposerai rapidement une présentation synthétique de la pratique du dialogue philosophique pour pouvoir vous proposer quelques hypothèses sur des possibles vertus, on va dire, de la pratique du dialogue philosophique en matière de prévention de la radicalisation. Donc tout d'abord, quand on parle de radicalisation, on parle d'une personne qui va se radicaliser, mais qui va aussi être embrigadée. Donc l'embrigadement, ça consiste à amener quelque part une personne à son insu. Donc il y a quand même une dimension stratégique qui rentre en ligne de compte, et on peut distinguer deux aspects majeurs dans le processus de radicalisation. Le premier, c'est un aspect relationnel. On va essayer d'isoler l'individu par différents procédés, notamment on va essayer de créer une anxiété générale en déstabilisant l'individu. Donc on assiste à un effritement progressif des liens de confiance qui sont autant des liens affectifs que des liens cognitifs, c'est-à-dire qu'il y a une insécurité affective qui envahit petit à petit la personne et qui donne lieu à une insécurité cognitive puisqu'il y a des nouvelles croyances qui vont venir relier petit à petit tout le système qui était déjà installé et au fur et à mesure que s'installent de nouvelles croyances et de nouveaux doutes, l'individu va se séparer, se mettre à distance de ses différentes appartenances sociales puisque en fait il doute et c'est un cercle vicieux qui s'installe puisque plus il doute, plus il s'isole, donc plus il est vulnérable et plus il s'en remet petit à petit entièrement finalement au mouvement qui est en train d'installer son emprise et c'est une dépendance affective qui s'installe. qui donne lieu à un état d'isolement et une incertitude aiguë qui finalement attise un besoin humain de certitude pour essayer de retrouver un peu de sécurité. Donc là, on a préparé le terrain pour le deuxième aspect du mouvement de la radicalisation qui est idéologique, puisque au fil de ce processus, il y a de nouvelles croyances qui se sont installées, comme on l'a dit, des nouveaux concepts, des nouvelles attitudes, des nouveaux principes d'action, et finalement, l'individu en arrive à se conformer totalement à l'idéologie du groupe dominant duquel il dépend de plus en plus. Donc on a une posture radicale qui est à la fois dogmatique, parce que le besoin de certitude exclut toute remise en question, et fanatique, parce que l'individu est entièrement gouverné par ses émotions. Donc finalement, c'est un effacement total de la personne, une identité singulière qui est enrayée au profit du groupe, et on peut parler d'une triple rupture. C'est Anne Fournier, je pense, qui parle en ces termes-là, qui parle d'une rupture avec l'identité de la personne, avec ce qu'elle est, une rupture avec les appartenances sociales, et une rupture avec la société dans son ensemble, parce que, comme on l'a vu, c'est souvent des mouvements qui se construisent en opposition avec un système dominant, avec la société dans son ensemble, etc. Donc ça nous permet de dégager trois conditions de possibilité, donc elles ne sont pas exhaustives, mais de ce processus de radicalisation. Tout d'abord, on peut voir qu'il y aurait une vulnérabilité identitaire qui serait en fait propice à l'installation de cette insécurité affective et cognitive. Parce qu'on peut se dire que plus la personne va manquer d'estime personnelle, de confiance en ce qu'elle pense en elle-même, plus finalement elle va être favorable à l'installation de cette déstabilisation. On peut parler aussi d'une instabilité existentielle, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure dans d'autres termes, mais on peut rappeler qu'on est dans un contexte de société moderne, occidentale, atomisée, donc individualiste, qui isole les individus des uns des autres, et sécularisée, donc qui n'offre plus d'emblée d'options existentielles. Donc ça laisse une place vacante qui est un terrain fertile pour les stratégies d'embrigadement, puisqu'on va aller offrir des réponses, offrir du sens et offrir une appartenance. Enfin, on peut voir qu'il y a la possibilité pour l'individu d'adopter une posture épistémique. Quand on parle de posture épistémique, il s'agit de considérer le savoir d'une certaine manière, que j'appelle non sophistiqué, j'y reviendrai. Non sophistiqué, c'est-à-dire en fait qui ne met pas en œuvre la pensée critique. On supprime le questionnement et le doute. Donc voilà, on a vu rapidement comment on peut essayer de formaliser un peu le processus de radicalisation. Maintenant, je vous propose qu'on regarde de quoi on parle quand on parle de pratique du dialogue philosophique, pour qu'on puisse ensuite essayer de voir quel lien on peut faire entre les deux. Donc, la pratique du dialogue philosophique, c'est une démarche pédagogique fondée sur la recherche philosophique et qui a été vraiment pensée pour les enfants. Matthew Lipman est à l'initiative de cette pratique aux États-Unis dans les années 70. C'est un professeur de logique à l'université de Montclair, qui s'est aperçu en fait qu'il y avait un énorme décalage entre, d'une part, les compétences théoriques, logiques et critiques de ses étudiants, et d'autre part, la capacité qu'ils avaient à appliquer ces compétences dans les problèmes de la vie quotidienne. Donc, à partir de là, il a travaillé à mettre en place un modèle éducatif différent, axé sur la pratique et qui vise à développer, dès le plus jeune âge, les compétences critiques et la formation du jugement. Donc avec Anne-Margaret Sharp, qui était son étroite collaboratrice, il a mis en place un matériel pédagogique et un dispositif qui voulait amener les enfants à penser par et pour eux-mêmes, par la pratique collaborative du dialogue philosophique. Donc le dispositif qu'il a mis en place, ça s'appelle la communauté de recherche philosophique, et c'est en fait un dispositif qui amène les enfants à s'engager dans une recherche encadrée par un animateur, et donc qui prend la forme d'un dialogue. On est dans un mouvement de co-construction, dans une réflexion commune, philosophique, sur une question qui est posée et choisie par les enfants. Donc, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un processus qui met en œuvre une pratique de la démocratie. Donc on n'est pas dans le débat, dans le sens où le but, c'est pas d'avoir raison sur l'autre, on ne réduit pas son adversaire à son point de vue, et on n'est pas non plus dans la discussion, parce qu'on n'est pas en train d'aligner plusieurs points de vue, on est vraiment dans un dialogue co-construit qui avance rationnellement. Aujourd'hui, il existe une pluralité de pratiques de philosophie avec les enfants, autre que la communauté de recherche philosophique de Mathieu Littmann. Le but, ce n'est pas d'en faire ici un état. Moi, je vais parler de la méthode Littmann, mais il faut savoir qu'il y a une pluralité de pratiques. Elles ont tout en commun d'être réflexives, créatives, critiques et essentiellement philosophiques. On peut juste aussi rappeler que depuis 2007, il y a une chaire UNESCO qui a été initiée et dédiée à la pratique de la philosophie avec les enfants, qui montre l'institutionnalisation de la discipline et qui, juste pour le rappel, le projet de recherche dans lequel je m'en sers est porté par cette chaire UNESCO. Donc, plus précisément, qu'est-ce qui se passe dans une communauté de recherche philosophique ? Le but de cette méthode, c'est vraiment l'acquisition d'un jugement de plus en plus juste et nuancé. Mathieu Littmann nous parle de pensée d'excellence. C'est une pensée qui est holistique, c'est-à-dire qu'elle est à la fois affective, sociale et cognitive. Donc ça repose sur une conception de l'être humain qui est de dire qu'on ne peut pas séparer son affect, sa cognition et ses rôles sociaux. Donc la dimension affective de la communauté de recherche, oubliez de vous dire qu'il s'agit vraiment d'un dialogue. Donc les enfants sont en cercle avec un animateur qui est intégré dans le cercle avec eux, donc dans une égalité, une horizontalité de rapport, et on va tous travailler. Donc l'animateur, il a pour responsabilité de poser un cadre bienveillant. On va être dans l'accueil, dans le respect, dans l'écoute de l'enfant. Et donc il y a une valorisation et une réassurance qui s'installe, qui développe l'estime de soi et la confiance, et qui permet, donc l'instauration de ce cadre sécurisant, ça permet par la suite la création d'un cadre social bien particulier, parce que chacun va pouvoir participer à la construction de la communauté. Donc c'est une pratique qui est évidemment collaborative, on amène les enfants à collaborer intellectuellement, mais pas seulement collaborer, à vraiment être dans une solidarité, à solliciter l'entraide. L'idée c'est que tous avancent ensemble dans un souci commun, et non pas chacun de son côté en s'écoutant, mais sans vraiment construire ensemble. Donc il y a aussi des développements, il y a des études qui ont montré que ça développait ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, qui est une traduction un peu la discipline de l'empowerment, mais comprise comme une capacité d'un individu à prendre des décisions et à exercer le contrôle sur sa vie personnelle. Donc ça, c'est un travail de recherche. Je me réfère notamment à un travail de recherche d'Elisabeth Loison-Acteur qui a montré qu'il y avait vraiment des effets, entre guillemets, psychothérapeutiques de cette pratique. Et par ailleurs, il y a un beau travail cognitif et réflexif, puisqu'il s'agit quand même de faire de la philosophie, et l'animateur est garant d'une rigueur intellectuelle qui s'exerce dans le dialogue, et on va vraiment aller travailler ce qu'on appelle des habiletés de pensée et les outils d'enquête. On pourra y revenir, j'ai des exemples à vous montrer si vous voulez tout à l'heure dans la discussion, mais c'est vraiment, on va aller amener les enfants à former leur jugement en développant des compétences de raisonnement. Donc on va développer la capacité de faire des déductions, des inférences, les règles de la logique, des comparaisons, etc. On va conceptualiser, donc on va leur apprendre à créer des réseaux de signification de plus en plus complexes en définissant les termes, et on va leur apprendre à problématiser, donc à aller toujours plus loin dans la capacité de questionner ce dont on parle. Donc finalement, on leur apprend aussi une compétence très importante, c'est la métacognition, c'est-à-dire qu'on est conscient des processus de pensée qu'on emprunte et des outils d'enquête qu'on met en œuvre. Et en fait, cette métacognition, c'est la condition de l'autocritique, puisque si je veux pouvoir voir les erreurs que je fais, il faut que je sois conscient de à quel moment mon raisonnement est fallacieux. Et donc, surtout, cette autocritique, c'est la condition de l'autocorrection. Et donc là, c'est vraiment un caractère très important, qui est la raisonnabilité de cette pratique, où elle est critique, et donc elle est autocorrective et guidée par des critères. Donc c'est une pratique qui est dialogique, puisqu'on va vraiment aller penser avec l'autre, c'est une rencontre de l'altérité. Et c'est donc une pensée d'excellence dont nous parle Littmann, qui est une pensée à la fois attentive, parce qu'elle prend activement autrui en compte, elle est créative, parce qu'elle se nourrit du doute et de la critique, et elle est critique, parce qu'elle est, donc, comme on vient de le dire, autocorrective et elle s'impose du contexte. Donc maintenant, on a vu un peu, d'une part, les leviers de la radicalisation, d'autre part, en quoi ça consiste la philosophie pour enfants et la pratique du dialogue philosophique. Donc je vous propose qu'on évoque quelques hypothèses sur les vertus possibles de la pratique du dialogue philosophique en matière de prévention. Alors ma première hypothèse, ce serait de dire que la pratique du dialogue philosophique, elle favorise la construction d'un sentiment de cohérence et d'assurance interne qui peut affaiblir les manipulations cognitives et affectives. Donc là, on se réfère à la déstabilisation de la personne dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment la mise en place d'une insécurité affective et cognitive. Et la pratique du dialogue philosophique, on a vu que ça développait l'estime et la confiance en soi. Donc ça, de manière un peu intuitive, on peut voir que c'est des éléments qui sont importants pour faire face aux stratégies qu'on a identifiées. Mais on peut aller un peu plus loin aussi et voir que dans la pratique du dialogue philosophique, il y a une participation à ce qu'on pourrait appeler un processus de construction identitaire, notamment parce qu'on met en œuvre des compétences et on développe des compétences affectives, sociales et cognitives. Donc là, on peut penser au concept d'exploration et d'engagement, qui sont en fait des modalités de la construction identitaire dont nous parlent les chercheurs en psychologie. Donc l'exploration, ça va être un processus actif où on va aller chercher de l'information, confronter des alternatives et finalement se mettre en action pour toujours mieux comprendre et voir plus loin. Ça donne lieu à un engagement où là on va pouvoir aller adhérer à des valeurs, mettre en œuvre des expériences selon les explorations qu'on a pu faire. Et donc ça, ça mobilise des compétences spécifiques qui sont favorisées par la pratique du dialogue philosophique. Donc enfin, on a vu que la pratique du dialogue philosophique, ça pouvait développer ou favoriser le développement du pouvoir d'agir qui semble complètement neutralisé chez la personne embrigadée ou en tout cas victime cible de stratégie d'embrigadement. Donc on peut dire que plus la personne aura développé cette capacité à prendre des décisions et à exercer un contrôle sur sa vie, plus elle pourra se solliciter dans l'adversité dont on a parlé. La deuxième hypothèse, elle consiste à dire que la pratique du dialogue philosophique, elle développe une posture épistémique sophistiquée qui mobilise les compétences critiques et prémunit la manipulation intellectuelle. Donc là, en fait, en philosophie pour enfants, il y a l'idée que face à la complexité du réel, il est raisonnable d'adopter une posture évaluative face au savoir, face à la connaissance. Donc là, c'est en fait une posture qu'on appelle fallibiliste, qui a été instaurée par Karl Popper, et qui cherche à invalider une hypothèse pour la tester, pour l'éprouver, plutôt que d'aller chercher une confirmation. Donc si je pense que quelque chose est vrai, et si je me demande si quelque chose est vrai, au lieu d'aller chercher positivement la preuve que c'est vrai, je vais plutôt éprouver et me dire que c'est valide jusqu'à preuve du contraire parce que telle hypothèse a résisté. Donc plus elle résiste, plus elle est vraisemblable. Mais on s'appuie quand même sur une vision approximative et provisoire des savoirs. On préfère la vraisemblance, la validité d'un énoncé à la vérité. On ne recherche pas une objectivité absolue, mais plutôt quelque chose d'objectivé et plutôt efficace pour répondre à un certain type de problème dans un contexte donné. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que même quand on développe les compétences critiques, finalement, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas parce que selon le statut qu'on va adopter face à la connaissance, on va plus ou moins mobiliser ces compétences critiques. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous, même si on sans être forcément dans une dérive sectaire. C'est qu'on a ce qu'on appelle, c'est Mathieu Gagnon qui parle de cette notion d'espace épistémique qui dit que selon ce rapport qu'on accorde à la connaissance, les croyances vont être plus ou moins remises en cause. Donc là, je vous propose un petit tableau qui fait état de différentes postures épistémiques et de l'utilisation de la pensée critique qui en découle. Donc c'est un tableau qui se lit de bas en haut, on ne va pas tous les voir en détail, mais l'idée c'est de voir qu'il y a une progression vers une pensée de plus en plus sophistiquée en ce sens où elle accorde un rôle de plus en plus important à la pensée critique. Donc par exemple, juste si on prend le dualisme c'est une conception qui affirme qu'entre deux théories distinctes, l'une est forcément vraie et l'autre fausse. Dans ces cas-là, si on considère qu'il n'y a que deux alternatives vraies et fausses, on aura beau avoir des conséquences critiques, on va les mettre en œuvre pour aller identifier le vrai et le distinguer du faux, mais on ne va pas aller plus loin. On ne va pas chercher d'alternatives. On ne va pas aller considérer d'autres contextes pour essayer de nuancer les choses. Si on prend une posture dogmatique, alors on considère que le savoir des experts il a une grande valeur de vérité, qu'il est nécessairement plus fiable, objectif et pas discutable. Donc là, en fait, on se rend compte que même si on a des compétences critiques, eh ben, on ne va pas les solliciter. En philosophie pour enfants, le modèle qu'on adopte, c'est plutôt un modèle de co-construction. Donc l'idée, c'est vraiment de dire qu'on ne va pas aller chercher l'objectivité, mais plutôt qu'on va confronter des points de vue, qu'on va négocier des interprétations différentes pour finalement réussir à organiser un processus d'objectivation. Et donc les savoirs qu'on va utiliser seront considérés plus ou moins viables selon les contextes. Donc on se rend compte que là, le rôle de la pensée critique, il est déterminant, puisqu'on va pouvoir examiner attentivement les alternatives pour enrichir le plus possible la compréhension. Donc finalement, c'est une posture qui est l'inverse du dogmatisme, en ce sens où elle utilise la critique et le doute en eux-mêmes. Ils sont recherchés pour eux-mêmes comme outil pour faire avancer la recherche. Ma troisième hypothèse, ce serait de dire que le rapport à l'autre et à la communauté, développé en CRP, donc CRP, Communauté de Recherche Philosophique, se présente comme un rempart à l'enrégalement relationnel. Donc là, d'une part, il s'agit de se rappeler d'un des aspects majeurs dont j'ai parlé, qui était l'isolement de l'individu. Et donc on peut penser que plus on va réussir à resserrer les liens entre l'individu et autrui, et même plus largement l'individu et la communauté, plus on va rendre difficile l'assise de l'emprise sectaire. Donc la pratique du dialogue philosophique, on l'a vu, c'est une pratique de l'altérité. Autrui, il est considéré comme un tremplin vers une pensée plus juste, plus nuancée. Il va me permettre de me corriger, d'améliorer ma vision. Donc c'est une pratique où la contradiction, elle est accueillie positivement comme une source d'enrichissement. Donc on voit que d'emblée, c'est une pratique d'ouverture d'esprit qui ouvre à la tolérance et une relation à l'autre apaisée. Donc là, on peut rappeler d'ailleurs que le programme de Lippmann, il a été utilisé dans des programmes d'éducation à la paix, à la citoyenneté et de prévention de la violence. Donc plus largement, on peut dire aussi que finalement, c'est un sentiment d'appartenance qui se dégage de cette pratique. D'une part, une appartenance à la communauté de recherche, comme on vient de l'avoir comme pratique pédagogique, mais plus largement aussi, une appartenance à une communauté d'humains en recherche. Donc on n'a pas tous les réponses et on se positionne comme un habitant du monde. Ça, c'est une expression de Jacques Lévin qui est une des personnes qui a initié la philosophie en France avec ses enfants. Et donc on se positionne comme un habitant du monde, on quitte finalement son statut de particulier, d'élève, d'instituteur, de médecin, et on va tous venir ensemble pour essayer de comprendre le mieux possible les questions philosophiques qui sont universelles et qui concernent tous les êtres humains. Donc là, ça me ramène à la notion de reliance qui a aussi été travaillée dans le travail de l'oiseau acteur dont j'ai parlé. La reliance, c'est un concept qui a été notamment thématisé par Bold de Ball et qui désigne la création de liens entre une personne et soit un système dont elle fait partie, soit un sous-système. Donc il y a trois niveaux de reliance. On peut se relier, la reliance est un acte donc de se relier ou de relier, et aussi un état où je me sens relié. Donc on peut le décliner à trois niveaux qui sont d'abord moi, psychologiquement, individuellement, je me sens connecté à moi, social, les autres, ceux qui m'entourent, et alors Baudelaire parle de sentiment cosmique, mais en fait je me sens relié au monde plus largement. Donc ce serait intéressant de le mettre en écho avec les trois ruptures dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une rupture avec l'identité, une rupture avec les appartenances sociales et une rupture avec la société en général. Donc on peut aussi se rappeler du contexte que j'ai évoqué, qui est celui des sociétés sécularisées, individualistes, qui laissent vacant ce besoin fondamental d'appartenance et de sens partagé. Et donc finalement, la philosophie pour enfants, ce sera aussi une manière de prendre en compte ce besoin humain essentiel de manière non dogmatique, non radicale, et qui pourrait contrer du coup les stratégies d'embrigadement dont on a parlé. Ma dernière hypothèse, ce serait de dire que la pratique du dialogue philosophique, elle favorise l'adoption d'une posture existentielle qui accueille le doute là où le dogmatisme et le fanatisme la rejettent. Donc finalement, c'est un peu la prolongation de cette hypothèse de reliance et puis aussi la conséquence de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'ici, on fait référence à l'instabilité existentielle et au besoin affectif de certitude utilisé par les stratégies d'environnement. Et donc l'idée, c'est de dire que, en écho à cette posture épistémique fallibiliste dont j'ai parlé, on pourrait parler donc cette posture fallibiliste qui accueille le doute positivement, on pourrait la transposer dans un registre existentiel où cette humilité face à l'ignorance, elle se pose en termes de vulnérabilité. Donc on va accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses qui nous échappent. On va accepter la fragilité, finalement, de la condition humaine. Et c'est d'autant plus acceptable qu'on peut justement se relier aux autres et donc se sentir un peu épaulé, moins seul en tout cas, face à la complexité existentielle du réel. Donc finalement, il y a une insécurité intérieure qui pourrait naître de cette pratique, qui accepte le doute positivement et qui permet de vivre avec l'incertitude. Donc en fait, on pourrait voir peut-être ça comme la formation d'un bouclier émotionnel. On voit que dès lors, les tentatives pour introduire l'insécurité dont on a parlé initialement, elles auraient moins de chances d'aboutir si le doute n'est plus source d'angoisse. Donc là, on peut penser aux travaux de Daniel Favre, qui a fait un travail important sur le dogmatisme et justement cette addiction aux certitudes, qui parle aussi de ce sentiment de sécurité intérieure, qui devrait, selon lui, non plus être associé à la stabilité des représentations, mais plutôt à la capacité dynamique de faire évoluer ces représentations tout au long de la vie. Et donc là, c'est vraiment la perspective qu'on adopte en philosophie pour enfants, comme on vient de le voir, il s'agit vraiment d'une capacité dynamique, d'évoluer toujours de manière à la fois raisonnable, mais aussi qui prend en compte l'aspect social et affectif de la vie. Donc finalement, pour résister aux emprises, il s'agirait de conjuguer une sécurité intérieure à un esprit critique et à une posture épistémique qui permet la mobilisation systématique de pensée critique. Donc pour conclure, on voit qu'il y a des liens manifestes qui viennent d'avoir des correspondances entre les leviers qu'on a identifiés du processus de radicalisation et les compétences et les attitudes développées par la pratique du dialogue philosophique. On peut dire qu'il y aurait une force spécifique amenée par la philosophie qui serait du coup cette sécurité intérieure existentielle qui accueille la vulnérabilité et le doute, le développement de compétences critiques, mais surtout une posture épistémique évaluative qui mobilise systématiquement la pensée critique. Quelques limites importante aussi par rapport à cette pratique, qui est que là, j'ai parlé très rapidement, j'ai pas parlé en fait du rôle de l'animateur, j'ai juste dit les missions qu'il a pour mettre en place une communauté de recherche qui digne de ce nom. Mais il y a un enjeu de formation et même de pratique qui est très important, en ce sens où l'animateur il a un rôle fondamental dans la construction du dialogue, et notamment il y a avec des enfants qui peuvent le prendre comme quelque chose de très... il peut avoir une influence très forte, et donc il y a deux dangers. D'une part, ça peut être un outil d'endoctrinement et de manipulation intellectuelle. Donc là, il faut vraiment veiller à ce que l'animateur accepte cette position de neutralité qui est très difficile, d'autant plus quand on a, par exemple, un passage d'enseignant. Et même de manière non volontaire, si l'animateur, justement, il n'est pas lui-même dans cette position évaluative, il peut influencer les enfants et faire aboutir à des croyances qui ne sont finalement pas les siennes. Donc, c'est quand même, il faut manier ça avec beaucoup de précautions. Ensuite, la force des émotions, dans le sens où voilà, c'est un outil comme un autre, c'est pas une formule magique. Et même si on accorde beaucoup d'importance ici à la rationalité en prenant en compte l'émotionnel, on a vu que voilà, il y a quand même une domination affective qui est très importante et on peut toujours questionner la capacité de la raison finalement à contrer les émotions. Et enfin, c'est pas du tout une approche exhaustive. Il y a plein d'autres possibilités et perspectives à explorer sur ce mouvement de radicalisation. Par exemple, je sais pas, la psychologie qui pourrait ramener la force de l'inconscient. C'est juste pour dire que c'est une vue partielle de la question. Je vous remercie.